Marc Fromager, bonjour.
Bonjour. Nous commençons tout de suite notre déplacement dans plusieurs pays de la zone, les chrétiens d'Orient. Et on commence avec l'Irak du 5 au 8 mars. C'était donc il y a un peu plus de 2 semaines. Le pape François, c'était en 2021, pardon, donc il y a 3 ans. Le pape François se rendait en Irak, souvenez-vous, allant de Bagdad, la capitale, à Erbil, c'est au nord, la capitale du Kurdistan, c'est une région autonome, en passant par Our, d'où vient Abraham, Karakoche, Mossoul, tout ça c'est dans le nord également, et Najaf, c'est plutôt dans le sud, là où il y a des chiites. 3 ans après, eh bien, le retour des chrétiens dans le pays reste ténu face à l'incertitude et aux intimidations de la part des différentes milices, surtout dans les villages de la plaine de Ninive, ça c'est autour de Mossoul, c'est là où la plupart des chrétiens vivaient jusque-là. Eh bien, nombreux sont ceux qui font encore leurs valises, c'est-à-dire qu'ils partent parce que eh bien, la situation sécuritaire, même si elle est meilleure que pendant la guerre, elle n'est pas encore idéale. Et surtout, c'est la situation économique, eh bien, du mal à trouver du travail. Alors, on vient de parler du pape. Deuxième brève sur le pape, en tout cas le Vatican, avec une solution diplomatique qui est toujours possible. Les propos du pape François, il y a quelques jours, appelant l'Ukraine à négocier, continuent à faire réagir. Le cardinal Parolin, qui est secrétaire d'État du Saint-Siège, donc le ministre des Affaires étrangères en quelque sorte, a précisé que la négociation n'est pas une faiblesse, mais une force. Ce n'est pas de la capitulation, a-t-il dit, mais du courage. Ce sont des mots qui s'appliquent à l'Ukraine comme à la Terre Sainte et aux autres conflits qui ensanglantent le monde, a-t-il conclu. Autre nouvelle, alors le Liban, j'en ai plusieurs. Tout d'abord, survivre à une nouvelle guerre, point d'interrogation. Dans les 2 scénarios qui apparaissent aujourd'hui comme les plus réalistes, le Liban va sortir perdant de la guerre de Gaza. Un possible accord à la frontière risque de renforcer le Hezbollah, le parti chiite, sur la scène intérieure. L'autre scénario, une offensive israélienne pour affaiblir justement le Hezbollah, est encore plus inquiétant. Dans les 2 cas, le Liban tout entier ne s'en remettrait pas. Alors le Liban toujours, parce que c'est vraiment une situation compliquée en ce moment, le Liban est sommé de mourir. C'est ce qu'a déclaré Hector Ajar, qui est le ministre des Affaires sociales, qui était en déplacement à Paris il y a 10 jours, pris en étau entre une communauté internationale qui lui impose la présence continue de 2 millions de migrants syriens sur son sol, et d'un autre côté, la menace de l'arrêt des aides internationales. Le Liban est en proie au chaos, abandonné au péril de la guerre, du désespoir et de la misère. Tableau un peu clinique, désespérant. Et d'ailleurs, pour terminer la séquence sur le Liban, c'est le 2e pays le plus malheureux au monde. En tout cas, c'est ce que le rapport World Happiness, qui est parrainé par l'ONU, et qui a été publié il y a quelques jours, déclare. Le Liban décroche ce titre peu enviable pour la 2e année consécutive. Les Libanais sont le 2e peuple le plus malheureux au monde en 2024, après les Afghans. Et donc, la référence n'est pas très heureuse, et juste devant le Lesotho. La Finlande, quant à elle, consolide sa première place de bonheur pour la 7e année consécutive. Et la France, bah, pas de quoi se réjouir, est au 27e rang, ce qui n'est quand même pas absolument fantastique. On pourrait espérer mieux pour notre pays. Alors, des condamnations à mort en Égypte et en Iran. L'Égypte, tout d'abord, le tribunal d'exception du Caire a condamné le 4 mars 8 dirigeants des frères musulmans, dont Mohamed Badieh, le guide suprême de la confrérie, désormais interdite en Égypte, à la peine de mort pour des violences commises en 2013 dans la foulée de la destitution de Mohamed Morsi, qui était président de l'Égypte à l'époque. 37 autres accusés ont été condamnés à la perpétuité et 13 autres à des peines de prison. L'Iran, donc c'était également des condamnations à mort, l'Iran a exécuté au moins 834 personnes l'année dernière, soit une augmentation de 43% par rapport à 2022, et le nombre le plus élevé depuis 2015, selon le rapport annuel des ONG Iran Human Rights et Ensemble contre la peine de mort. C'est la seconde fois en 20 ans que le nombre d'exécutions dépasse le seuil de 800 par an des sociétés, donc, que ce soit l'Égypte ou l'Iran, vous l'aurez compris, eh bien en proie à une certaine violence et une manière assez radicale de la traiter. En tout cas, c'est la manière dont ils le font là-bas. Soudan, on est en Afrique et au Soudan, il y a également des chrétiens d'Orient. Le titre, cette semaine, 18 millions d'affamés. L'Agence alimentaire de l'ONU a déclaré que quelque 18 millions de personnes au Soudan souffrent d'une faim aiguë. Il y a 20 ans, le Darfour a connu la plus grande crise de la faim au monde et le monde s'est mobilisé pour y répondre. Mais aujourd'hui, le peuple soudanais a été oublié. C'est ce qu'a déclaré Cindy McCain, directrice du Programme alimentaire mondial. Et de fait, ce qui se passe en Afrique, visiblement, ça n'intéresse pas grand monde. On traverse la mer Rouge et on se retrouve au Yémen. Encore un chef d'Al-Qaïda tué après la mort de Qassim Al-Rimi lors d'une frappe de drone américain en février 2020. Khalid Al-Batarfi avait repris la branche yéménite d'Al-Qaïda. Il vient à son tour d'être éliminé. Les États-Unis avaient offert une récompense de 5 millions de dollars pour toute information le concernant. Alors lui, il a perdu la tête, mais en Égypte, eh bien Ramsès II, lui, l'a retrouvé. La moitié supérieure d'une statue du pharaon égyptien Ramsès II a en effet été mise au jour par des archéologues dans le sud de l'Égypte. La partie inférieure avait été découverte il y a près d'un siècle, en 1930, par l'archéologue allemand Günther Röder. Il faut se souvenir que le règne de Ramsès II, eh bien, il est un peu ancien, hein. C'était en 1279 avant Jésus-Christ jusqu'à 1213. Et ce règne est considéré comme l'apogée de la puissance et de la gloire de l'Égypte. En Inde, parce que les chrétiens d'Orient, ça va jusqu'en Inde. En Inde, les chrétiens sont une toute petite minorité, 2,5% de la population, essentiellement des latins, le rite romain, comme nous. Mais également des Syro-Malabar et des Syro-Malankar. Ça serait un peu long à expliquer aujourd'hui, mais Syro, c'est bien de Syriaque, c'est l'Église d'Orient qui a été jusque là-bas. Et tout cela, eh bien, ils sont catholiques, même s'il y a une branche orthodoxe. Alors en Inde, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Une loi très controversée. L'Inde vient de préciser le 11 mars les règles d'une loi très controversée d'accès à la citoyenneté de personnes originaires de trois pays. Pakistan, Afghanistan et Bangladesh, les pays voisins de l'Inde, mais qui exclut de fait les musulmans. Narendra Modi se prépare à un troisième mandat en cas de victoire aux élections législatives qui doivent se tenir à partir d'avril. Je précise que l'Inde est le troisième plus grand pays musulman au monde, hein. Plus de 135 millions de musulmans ont la nationalité indienne, mais là il s'agit de migrants venant des pays avoisinants. Et où eh bien, cette loi facilite leur accès à la citoyenneté s'ils sont chrétiens, hindous, bouddhistes ou que sais-je encore, mais pas musulmans. Nous continuons avec l'Irak, avec une nouvelle tendance des séries irakiennes diffusées durant le Ramadan en ce moment, au moment où la télévision connaît ses plus grosses audiences. Les séries dévoilent un aspect sombre de la société irakienne après 40 ans de guerre. Drogue, divorce ou mariage de mineurs. Après une interruption de 27 ans, une série qui avait été interdite sous Saddam Hussein, elle s'appelle Le Monde de Madame Wahiba, est revenue pour une deuxième saison. 40 ans de guerre, je vous rappelle donc de 1980 à 1988, la guerre contre l'Iran. Ensuite, il y a eu l'invasion du Koweït. Ensuite, il y a eu l'intervention occidentale. En 1991, avec les Américains, les Britanniques, les Français. Ensuite, 12 années d'exclusion, de sanctions très fortes contre le pays. Ensuite, à nouveau, l'intervention anglo-saxonne en 2003, où la France ne s'est pas jointe. Et en fait, même si aujourd'hui la guerre est officiellement terminée, en fait, c'est toujours un pays qui est en état de guerre larvée. Et donc, cela fait effectivement plus de 40 ans. Juste à côté, la Syrie, 20 000 enfants de l'État islamique, 5 ans après la chute, entre guillemets, du califat. Des dizaines de milliers de femmes et d'enfants sont détenus par les forces kurdes syriennes, alliées des États-Unis, dans des camps entourés de barbelés et de tours de guet. Plus de 40 000 personnes, donc de 45 nationalités, pour moitié des enfants, c'est là qu'on retrouve le chiffre de 20 000. vivent dans celui d'Al-Hol, qui est un camp dans le nord du pays, apparemment sans plan de rapatriement en vue. Turquie, la hausse des féminicides. Il y a 3 ans, la Turquie s'est retirée de la Convention d'Istanbul, qui participe à la lutte contre les violences faites aux femmes sous l'égide du Conseil de l'Europe. Triste ironie dans ce pays qui décompte un meurtre de femme par jour, des décès qualifiés de suicides par les autorités, mais que les associations qualifient de meurtres, notant par exemple la hausse des défenestrations.
Et pour terminer, vous souhaitiez nous parler de l'Arabie Saoudite où vous étiez récemment.
Effectivement, je reviens d'un déplacement avec le directeur de SOS Chrétien d'Orient, Benjamin Blanchard. Nous avons passé une semaine avec beaucoup de contacts dans ce pays. Donc, le titre de la brève, Bientôt des églises, point d'interrogation. Avec le Qatar, le Koweït et le Bahreïn, l'Arabie saoudite fait partie du vicariat apostolique de l'Arabie du Nord, sous l'autorité d'un évêque français, Monseigneur Aldo Berardi, nommé par le pape François le 28 janvier 2023. Des églises seront-elles bientôt autorisées dans le royaume? Les catholiques de la péninsule l'espèrent et cela viendra peut-être plus tôt que prévu. Point de suspension. Évidemment, nous n'avons pas de confirmation à ce propos et sans doute même faut-il rester un peu discret sur le sujet. Mais donc, dans la péninsule arabique au total, vous avez 3 millions de catholiques. Donc, ils sont tous étrangers, la plupart asiatiques, des Philippins, des Indiens, des Libanais, ainsi de suite. 1 million en Arabie Saoudite. Si on rajoute les autres pays du vicariat apostolique, donc ceux que j'ai nommés, le Bahreïn, le Koweït et le Qatar, cela fait 1 million de plus. Et ensuite, vous avez le vicariat apostolique de l'Arabie du Sud, avec les Émirats arabes unis, le Sultanat d'Oman et le Yémen. Et donc, au total, ça fait 3 millions. Alors, ce qui est très intéressant dans ce déplacement que j'ai fait, moi, j'avais suivi de près ce projet de construction de cathédrale catholique dans la péninsule arabique. Les gens ne s'en rendent pas compte. On a l'impression que c'est absolument impossible. En fait, il y a des églises dans tous ces pays-là, sauf l'Arabie saoudite, pour le moment. Autrefois, c'était l'évêque d'Abu Dhabi aux Émirats arabes unis qui géraient toute la péninsule. C'est devenu trop important. En termes de chiffres, en termes de pratiquants, le Vatican a coupé la péninsule en deux. Et donc, c'est l'évêque du Koweït qui a récupéré le Bahreïn, le Qatar et l'Arabie saoudite. Et du coup, il s'est déplacé au Bahreïn pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un environnement un peu moins rigoriste. Et puis, surtout, c'est une île qui est reliée à l'Arabie saoudite par un pont. Un pont d'ailleurs que nous avons pris la semaine dernière pour aller de l'Arabie saoudite au Bahreïn, et ce qui a permis au prédécesseur de l'évêque actuel eh bien, d'organiser un petit peu la vie de l'Église catholique, qui est souvent quand même assez discrète, voire semi-clandestine, surtout en Arabie saoudite d'ailleurs, mais qui a pu du coup et a dû eh bien, construire une cathédrale puisque c'était un nouveau vicariat apostolique. Et c'est un projet qui a mis du temps. J'avais déjà vu les fondations, les travaux en cours, mais je n'avais pas encore vu cette cathédrale aboutie, terminée, inaugurée. Et ça a été eh bien, l'occasion cette semaine de le faire. Une extraordinairement belle église, Notre-Dame d'Arabie, qui est donc la cathédrale pour tous ces catholiques que je viens de nommer, et avec donc cette eh bien, cocorico, particularité d'avoir un évêque français qui est sur place et qui s'occupe de nos frères catholiques dans cette région du monde.
Merci Marc Fromagier pour votre émission. Merci de nous avoir fait découvrir toutes ces situations. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Les Chrétiens d'Orient avec Marc Fromagier. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.